L'Éden de Satan numéro 131. Arroser les semences pensées dans votre pensée, troisième partie. Le 8 octobre 2023. Brian Kozurek, pasteur. Inclinant la tête dans la prière. Père miséricordieux, nous sommes si reconnaissants, Seigneur, de continuer cette étude de l'Éden de Satan à l'arrosage de ta semence. Et Père, nous prions simplement pour que ces paroles aident simplement les gens, Seigneur, à vraiment prendre le contrôle de qui ils sont. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit, pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical et pour le montrer, vous devez d'abord le penser. Si vous continuez à semer le même courant de pensée, qu'il soit bon ou mauvais, vous n'y pourrez pas empêcher cela de produire des résultats sur votre caractère et les circonstances de votre vie. Maintenant, pensez-y. Non seulement vos pensées et votre méditation sur ces pensées contribuent à construire votre caractère, mais cela est également en relation avec les circonstances de votre vie. Maintenant, vous pourriez dire, j'en doute un peu. Nous vivons comme nous vivons. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est-à-dire que vos propres circonstances sont les conséquences de ce qui se trouve dans vos pensées. Bien sûr, il y a des moments, comme Israël et le Hamas, la guerre qui se déroule en ce moment. Israël a tué 200 de leurs compatriotes avant qu'ils n'aient mis riposte. Donc, ce n'est pas seulement une rue à sens unique. Donc, si leurs circonstances avaient été différentes, la situation serait différente. Il n'y aurait pas de guerre. Esaïe 58.11 Et le Seigneur te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans la sécheresse. Et fortifiera tes osées, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux n'y manquent jamais. Jérémie 31.12 Belram sera comme un jardin arrosé. Eh bien, maintenant, de quoi cela parle-t-il? Un jardin arrosé? Eh bien, vous voyez, vos pensées dans le siège de votre pensée sont des semences. Et donc, ils ont juste besoin d'être arrosés. Et alors elles vont s'exprimer et elles n'y peuvent que s'exprimer, parce qu'elles sont des semences. Donc, si vous les arrosez, elles vont fleurir. Si vous n'y les arrosez pas, elles vont mourir et se racornir et disparaître. Par conséquent, tout ce que vous êtes, et c'est une grande déclaration, mais tout ce que vous êtes, même votre caractère provient du jardin de votre pensée, de vos pensées qui sont dans votre cœur, faisant de vous ce que vous êtes réellement. Et le jardin de vos pensées affecte tout ce qui est déjà en vous, affecte non seulement votre caractère, et façonne votre caractère, car Dieu sait ce dont vous avez besoin. Donc, ce jardin façonne non seulement votre personnalité, mais même aussi les circonstances dans lesquelles vous entrez quotidiennement, et affecte même la façon dont vous gérez ces circonstances. Et Dieu utilise ces circonstances pour façonner votre caractère dans le produit final qu'il a prédestiné pour vous. Oh là là! Je pense que nous pourrions simplement rentrer à la maison tout de suite. Je veux dire que ça sert beaucoup de choses à méditer, mais j'en ai plus. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve que Dieu vous fait subir, se produit à la suite des semences pensées qui se trouvent dans votre propre cœur. Rappelez-vous que je vous ai dit, quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans la famille, vous êtes à peu près à ce niveau, juste un nouveau-né, et vous devez atteindre une pleine maturité afin d'être adopté. Eh bien, chaque épreuve que vous endurez chemin faisant, Chaque pensée qui traverse votre pensée vient à la suite des semences qui y reposent. Et la façon dont vous y répondez, c'est-à-dire la façon dont vous mûrissez. Vous passez le test de première année et vous le réussissez. Vous atteignez la deuxième année, vous passez le test de première année et vous ne le réussissez pas. Vous redoublez et vous passez par le même test encore et encore et encore, jusqu'à ce que, comme Einstein l'a dit, si vous pensez que vous pouvez faire la même chose encore et encore et obtenir un résultat différent, a-t-il dit, c'est-à-dire le premier signe de la folie. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve que Dieu vous fait subir, se produit à la suite des semences pensées qui se trouvent dans votre cœur. Par conséquent, chaque semence pensée qui est semée, ou que nous laissons tomber dans le sol fertile de notre pensée et de, s'y enraciner, produira sa semence selon sa propre ressemblance aux natures. Vous vous demandez pourquoi nous avons tant de tueries. Mais cela a commencé avec les vidéos que les enfants regardent shoot des malopes, descendez-les tous. Puis ils sont passés à la guerre du pinball et ils ont fait jouer des adultes. Quand j'étais enfant, je jouais à la guerre. J'ai joué aux Indiens et aux cow-boys. Et nous avons fait toutes sortes de choses parce que nous étions influencés par les films. N'est-ce pas? Ensuite, vous prenez de l'âge, et vous voyez que ces mêmes adultes jouent à des jeux vidéo où ils jouent au pinball rouge et à des choses semblables. Vous dites, que se passe-t-il? Ils sont programmés à devenir des tueurs. Ils sont désensibilisés à ce qu'est la vie. Tôt ou tard, chaque semence pensée que nous avons semée dans nos cœurs devra s'épanouir et se manifester dans nos vies comme une action ou un acte. Et chaque action ou acte portera ses fruits en termes d'opportunités et de circonstances. Comme nous le dit les Écritures, les bonnes pensées porteront de bons fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais fruits. Par conséquent, des pensées affectueuses créeront une atmosphère d'aide et de confiance, qui se cristalliseront en habitudes de grâce, de bonté et de charité, ce qui créera d'autres circonstances d'amitié et de bienveillance joyeuse, et de réciprocité de la part de ceux qui sont les destinataires de vos pensées affectueuses. Autrement dit, frère Branham a dit, les actes que vous posez à l'égard d'une personne peut déterminer sa destination éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle commence à faire de belles choses pour vous. Parce que vous avez fait de belles choses pour elle. Et autre une blanc. Si Néhémie ne sont pas élus, Dieu dira certainement, et, tu as très bien traité mon élu. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? Qu'avez-vous fait? Vous les avez amenés à être affectueux. Vous les avez amenés à partager tout ce qu'ils ont avec vous. Et ils ne comprennent pas, mais en fait, ils vont être récompensés pour cela. L'apôtre Paul a parlé de notre amour qui est la manifestation extérieure de notre révélation comme quelque chose qui reflète votre caractère intérieur. Comme j'ai dit à frère Don, il était juste un peu contrarié, parce qu'il Néhémie rentrait toujours pas à la maison. Il Néhémie comprenait pas pourquoi Dieu Néhémie l'avait pas encore pris. Et j'ai dit, frère Don, si tu veux rester ici encore 8 semaines, continue comme ça. Sinon, sois vraiment amical et vraiment charmant. Et c'est Esther ce qu'il a fait et alors il est parti. Alors, vous voyez, vous dites, eh bien, que dois-je choisir? Je n'ai mis ses pas. Désolé. J'essaie d'être gentil, mais parfois je n'ai mis le suis pas, alors peut-être que Dieu doit m'y amener. Ok. Voulez-vous bien me supporter? 1 Thessaloniciens 4 Bible VUS se souvenant sans cesse de vos œuvres produites caractérisées par la foi qui est la vôtre, autrement dit, Votre foi produit et définit vos actions et votre labeur qui est motivé et défini par votre amour divin et sacrificiel. Et votre patience dans les épreuves qui trouve sa source dans votre espérance, qui repose dans notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu, même du Père. Donc, vous voyez, tout vient de l'extérieur, l'intérieur. La feuille sur la plante, où était-elle? C'était à l'intérieur de la semence. C'était à l'intérieur de la plante. Elle en est ressortie. Cela s'est simplement manifesté. Pourquoi? Elle a eu suffisamment d'eau. Vous voyez. Voyez-vous comment notre foi, ou révélation, opère en nous une expression extérieure qui ramène la gloire à Dieu notre Père? Et l'apôtre Paul a également parlé de l'église primitive d'Éphèse comme ayant cet amour extérieur envers tous les frères. Éphésiens 1.15. Pourquoi moi aussi? Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et de votre amour envers tous les saints, cesse je n'ai mis cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Parce qu'il voit une expression extérieure de l'amour pour tous les saints. Il dit, faisant mention de vous dans mes prières. 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. 18 Que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Oh là là! La gloire de son héritage dans les saints. Et nous lisons dans Colossiens 3.12 Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité de pensée, de douceur, de longanimité. Maintenant, vous dites, comment puis-je les revêtir? Vous devenez ce qu'il y a dans votre pensée. L'action découle de la pensée, elle doit donc d'abord affecter la pensée. Et encore dans 1 Pierre 3.1-7, 1 de même, vous femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, s'il y en a, qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent être gagnés sans la parole par la conduite ou la vie de leur femme, de lorsqu'ils auront observé votre conduite chaste accompagnée de crainte. 3 Dans l'ornement n'ayez mis soit pas cet ornement extérieur des cheveux tressés, et de porter de l'or ou la tenue vestimentaire. 4 Mais que ce soit l'homme caché du cœur, lequel n'est pas corruptible, c'est à dire l'ornement d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Autrement dit, ils ont tous les yeux rivés sur vous. 5 Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui mettaient leur confiance en Dieu, étant soumises à leur mari, 6 Comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait Seigneur, de laquelle vous êtes les filles tant que vous faites le bien, et Néhémie craignant aucune frayeur. C'est de même, vous maris, demeurez avec elle selon la connaissance, portant honneur à la femme, comme le vaisseau le plus faible, et comme étant héritier ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières Néhémie soient pas entravées. 8 Enfin, soyez tous d'une même pensée, autrement dit, que la pensée de Christ soit en vous, ayant compassion, l'un envers l'autre, rempli d'amour fraternel, ayez de la pitié, soyez courtois. Vous dites, eh bien, c'est-ce vraiment de la pitié? Oui, vous êtes censé avoir de la pitié. 9 Néhémie rendant pas mal acquis pour mal acquis, ni injure pour injure, mais au contraire bénissant, sachant que vous êtes appelé à cela, afin que vous héritiez une bénédiction. 10 Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal acquis, et ses lèvres de prononcer la tromperie. 11 Qu'il se détourne du mal acquis, et fasse le bien, qu'il recherche la paix, et la poursuive. 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Mais la face du Seigneur Esther, contre ceux qui font le mal à qui? 13 Et qui Esther, qui vous fera du mal à qui? Si vous poursuivez ce qui est Esther bon? 14 Même si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux? Et n'ayez pas peur de leur effroi? Et Néhémie, soyez pas troublés? 15 Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner, avec douceur et crainte, une réponse à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 16 Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui disent du mal à qui de vous comme de malfaiteurs deviennent honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bonne conduite en Christ. Maintenant, le mot conduite signifie à nouveau que vous menez une bonne vie, votre bonne vie en Christ. 17 Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien, qu'en faisant le mal à qui. Donc, vous allez souffrir pour les deux. Mais le mal à qui vient de votre pensée. Mais le bien aussi vient de votre pensée. Autrement dit, les pensées pures créeront une atmosphère de sainteté et de sobriété, qui se cristalliseront. Pensez au mot cristalliser, en habitude de sanctification et de maîtrise de soi, qui se solidifie davantage dans des circonstances de repos et de paix. Tout cela est sous votre contrôle. Dieu a placé le monde entier sous le contrôle d'Adam, puis sa femme a gâché cela, et il l'a gâché avec elle. Il avait tout et il a laissé cela lui échapper. 1 Thessaloniciens 5.23 Et que le vrai Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche jusqu'à la venue ou la parousia de notre Seigneur Jésus, Christ. Donc, Dieu veut vous sanctifier entièrement. Romains 6.17-19 Mais grâce à Dieu, de ce que vous étiez asservis au péché, mais vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine qui vous a été donnée. 18 Étant donc libérés du péché, vous êtes devenus asservis à la justice. Et comment êtes-vous devenus asservis à la justice? Parce que vous pensiez justice. Vous, Néhémie, pouvez pas vous empêcher d'être juste. N'est-ce pas? La Bible dit qu'un homme qui fait le bien Esther en fit juste. Donc, vous, Néhémie, pouvez pas vous en empêcher. Vos pensées sont justes. Vous devenez juste. 19 Je parle à la manière des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. De même vous avez soumis vos membres à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité. Donc maintenant soumettez vos membres pour servir la justice en sainteté. Alors, qu'est-ce que la justice produit? Qu'est-ce que le fait de faire le bien produit? La sainteté. Vous voyez? D'où vient-elle? Le jardin de votre pensée. Tout est là. Toutes ces semences sont plantées en vous. Toutes ces semences sont en vous. Il vous suffit de les arroser. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 7.1 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Maintenant, nous allons nous purifier de toute souillure de la chair telle que voir, goûter, toucher, sentir et entendre. Autrement dit, je descends la rue et frère Branham a dit qu'il gardait une petite croix accrochée à son rétroviseur. Et quand il Esther tombait sur quelque chose sur lequel on est mis, devrait pas poser les yeux, il les détournait vers Christ. Comme nous chantons le cantique, tournez vos regards vers Jésus. Je n'ai mis sais pas combien de fois dans ma jeunesse. Et je suis trop vieux pour ce genre de choses. Mais quand j'étais un jeune homme, et que je conduisais sur la route, et pour une raison quelconque, quelque chose m'obligeait à tourner la tête et à regarder. Et entre deux maisons, j'ai vu une femme allongée prenant le soleil. Et je me retournais et j'avais une croix dans ma voiture et je regardais la croix. Vous voyez? Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Nous n'écoutons pas de musique rock'n'roll. Nous n'aimons regardons pas des choses que nous n'aimons devrions pas regarder, goûter, voir et sentir et entendre et toutes ces choses. Donc, fondamentalement, nous sommes purifiés de toute la chair. Mais nous sommes aussi purifiés de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce ce que s'est-ce? L'esprit, c'est-ce votre raisonnement, vos affections, vos émotions et toutes ces choses. Donc, il purifie la totalité de vous, le corps, l'âme et l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. En attendant, vous avez un bon vase propre. Philippiens 4.8 Finalement, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et s'il y a quelque vertu, et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Il n'y a pas de place pour des commérages. Il n'y a pas de place pour une mauvaise réputation. Il n'y a pas de place pour l'impureté. Et avec ça, laissez tomber. Dieu s'en occupera. 1 Timothée 1.15 Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que Christ Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Qu'est-ce que cela signifie? Un cœur pur? Un cœur purifié? C'est votre pensée? Ce que vous pensez. Hébreux 12.14 Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne n'aimé verra le Seigneur. Ainsi, nous voyons ces pensées positives, ainsi que des pensées de courage et de décision, créent en vous une atmosphère d'assurance et de fermeté, qui apportera des circonstances de succès et de liberté. Éphésiens 3.11 et 12 Selon le dessein éternel qu'il a exécuté en Christ Jésus, notre Seigneur, 12 ans qui nous avons, adies et ex avec confiance par sa foi. Donc, c'est-à-dire sa foi. Elle nous donne accès, elle nous donne confiance. Tout est-à-dire dans la pensée. Hébreux 10.35-36 Néhémie, rejetez donc pas au loin votre confiance, qui a une grande récompense. 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir les promesses. Donc, vous voyez ce qui est dans la pensée n'est que le point de départ. Frère Branham a dit, le chrétien, il a une foi mentale. Mais vous devez l'arroser du Saint-Esprit. Et alors quand vous l'arrosez, elle commence à fleurir dans vos actions. Hébreux 10.22-24 Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant nos cœurs aspergés d'une mauvaise conscience, et nos corps lavés d'une eau pure. 23 Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis. 24 Et estimons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, les pensées douces et indulgentes créent une atmosphère d'amour et de confiance qui se solidifie en circonstances protectrices et conservatrices et se cristallise en circonstances qui vous permettent d'apporter de l'aide et du pardon aux autres. Vous voyez, si vous n'aimez pardonnez pas ici, vous n'aimez pardonnerez pas dans vos actions. Qui permet aux personnes touchées d'entrer dans une atmosphère d'espoir et de réconciliation. À votre avis, pourquoi frère Branham ressemble-t-il tellement à Christ? Il a dit, vivez-moi un sermon, Néhémie m'en prêchez pas un. Éphésiens 4.31-32 Que toute amertume, rage, colère, clameur, et médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute malice. 32 Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns les autres, de même que Dieu, pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Autrement dit, aucun de nous n'est ester parfait. Nous allons tous avoir nos faux paves. Un faux pave ester, un mot argotique irlandais pour fausse patte, faux pas. Pardonnez simplement la personne. Laissez tomber. Et cela montre votre volonté à la miséricorde. Cela montre votre volonté d'abandonner toutes les mauvaises choses et de tourner vos regards vers Christ. Colossiens 3.12-14 Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité de pensée, de douceur, de longanimité, 13 vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant l'un l'autre, si quelqu'un se querelle contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. 14 Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de charité, qui ester le lien de la perfection. C'est ester la première chose à laquelle vous devez toujours penser. Si ce n'est ester pas par la grâce de Dieu, c'en ester fait de moi. Par conséquent, qui suis-je pour dire quelque chose à cette personne? Si vous continuez à semer les mêmes semences pensées précises, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela n'est mis peu que créer une atmosphère autour de vous qui affectera également votre caractère et les circonstances dans lesquelles vous vivez. Or un jardin ester un endroit ou une parcelle de terrain que vous mettez spécifiquement de côté pour cultiver des choses que vous aimez, que ce soit pour de la nourriture ou pour la beauté, pour simplement les regarder, telles que des fleurs et des roses, etc. Un jardin ester un endroit où vous semez des semences, et vous venez arroser et cultiver ces semences, parce que vous avez un but en tête. Et si nous n'aimons cultivons pas notre jardin, alors d'autres semences qui tombent dans notre jardin seront en concurrence avec la chose spécifique que nous voulons récolter. Par conséquent, nous devons cultiver les semences que nous voulons et extirper les choses que nous n'aimons voulons pas avoir à la récolte. Maintenant, nous n'aimons faisons pas tout ce travail de prendre soin d'un jardin juste pour le simple plaisir de retourner la terre et de casser des pierres. Si nous le faisions ainsi, eh bien, la prison serait amusante. Mais nous devons avoir un but. Un jardin doit être tracé, et il doit y avoir un plan dans votre pensée quant à la façon dont vous aimeriez voir votre jardin se révéler. Et frère Branham n'a-t-il pas dit, Jésus ester la semence modèle? Il ester l'exemple. C'est ester un modèle. Donc, nous avons un modèle pour notre jardin, et s'ester lui. S'il n'y a pas de plan, vous passerez un moment terrible à essayer de récolter ce que vous avez semé. Pourriez-vous vous imaginer planter un jardin où vous sortez et attraper une poignée de semences de carottes et vous les jeter en l'air, sans vraiment vous soucier de l'endroit où elles tombent? Essayez de prendre un sac de semences de maïs et de les jeter par terre, juste bon gré mal acquis gré. Répétez ensuite le même processus avec des semences de pastèque, de radis, de concombre, de tomates, de pommes de terre, d'haricots, de pois et tout ce que vous souhaitez récolter. J'imagine que le semis peut être facile, mais au moment de la récolte, vous allez avoir un vrai désordre d'essayer de trier exactement ce que vous avez semé. Alors, il doit y avoir des rangées. Il doit y avoir un but. Je plante certaines choses ici et je plante peut-être quelques fleurs entre les rangées. Pourquoi? Parce qu'un certain type de fleurs éloigne les animaux insectes. Ensuite, je plante autre chose ici et je plante autre chose là-bas. Et pourtant, s'ester ainsi que beaucoup d'entre nous mènent leur vie quotidienne et surtout leur vie spirituelle. J'en ai bien peur. Pouvez-vous imaginer quelqu'un essayant d'amasser des trésors terrestres sans plan? Et pourtant, C'est exactement ce que nous faisons, en amassant les trésors célestes. Eh bien, qu'en est-il? Nous plantons d'abord chaque semence dans un vase, au lieu de simplement les jeter, en l'air. Ensuite, quand il commence à pousser, nous pouvons identifier ce qui est quoi. Puis nous mettons ces vases en rangée. Matthieu 6.19-20 Et vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rue détériorent, et où les voleurs pénètrent et dérobent. Vain mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rue n'aiment détériorent, et où les voleurs n'aiment pénètrent ni n'aiment dérobent. Beaucoup d'entre nous luttent parce que nous n'avons pas appris ce premier principe de semer et de récolter. Nous regardons trop souvent l'homme qui est riche et nous disons, c'est un escroc et c'est pourquoi il est riche. Maintenant, c'est peut-être vrai en partie, mais la raison pour laquelle l'homme est riche, c'est parce qu'il a appliqué le principe de semer et de récolter, ce que beaucoup d'entre nous n'aimés sont pas disposés à faire. Il avait un plan pour gagner de la richesse et il était dévoué à ce plan. Et donc toute sa vie s'est structurée autour de ce plan. Et ainsi il a récolté ce qu'il a semé. Je ne m'y suis pas un seul instant jaloux de ceux qui ont travaillé très dur pour ce qu'ils ont. Ils le méritent. Mais je suis désolé pour eux de la même manière que je suis désolé pour le pauvre agriculteur qui perd ses récoltes à cause de la grêle ou de la tornade. Beaucoup d'entre eux, sinon la majorité d'entre eux qui sont très riches, ont amassé leurs trésors au mauvais endroit, parce qu'ils n'aimés pourront profiter que de ce qu'ils ont semé pendant une saison. Mais les n'aimés peuvent même pas l'emporter avec eux. Par conséquent, je veux ce qui n'aimé sera pas rouillé et mangé par les mites. Je veux ce qui restera vraiment avec moi tout au long de l'éternité. Et Jésus nous a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, alors toutes ces choses nous seront ajoutées. Maintenant, quelles choses nous seront ajoutées? Eh bien, ouvrons nos Bibles pour les découvrir. Maintenant, dans Matthieu 6.24-27, je veux que vous remarquiez qu'il nous est dit de n'aimer pas nous inquiéter de certaines choses. Maintenant, il n'aimer nous dit pas que ces choses n'aimer sont pas importantes pour nous, mais que notre pensée relative à ces choses doit être dirigée, non pas vers ces choses, mais vers le royaume de Dieu d'où viennent toutes les bonnes choses. Autrement dit, Jésus leur dit qu'ils doivent se concentrer sur les choses justes. C'est le même principe que nous voyons dans le traitement des pauvres dans les pays très arriérés. Les gens meurent de faim, et nous avons pitié d'eux, mais si nous les nourrissons, ils dépendront toujours de nous. Mais si nous leur apprenons à semer et à récolter, ils apprendront à subvenir à leurs besoins. C'est une chose que nous avons faite dans l'œuvre missionnaire. Nous avons donné 22 parcelles de terre, certaines aussi grandes que 8 acres, d'autres aussi petites que 31,5, et nous les avons données à 22 églises. Et en gros, nous avons dit, nous vous donnons cette terre. C'est à vous de décider. En tant que pasteur, vous dites, eh bien, mon peuple est très pauvre, et je n'ai pas de chaussures pour les enfants, et je peux à peine me permettre de manger. Et comme Inaïmi me donne pas la dîme, j'ai dit, tout d'abord, avez-vous 30 hommes dans votre église? Oh oui, nous avons 30 hommes. Et ils n'ont pas de revenus. J'ai dit, eh bien, ok, si vous avez 30 pelles, maintenant vous avez une équipe. Maintenant, vous pouvez produire des revenus pour tout le monde. N'est-ce pas? Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté un terrain, et nous avons dit au pasteur, passez un accord avec l'église, que chacun reçoit un quart d'acre. Ensuite, ils peuvent l'utiliser pour récolter eux-mêmes des légumes de toutes sortes. Demandez-leur d'en apporter 10% à l'église. Maintenant, Vous pouvez installer vos enfants. Ils peuvent installer un stand et ils ont un stand de légumes. Et ils peuvent produire un revenu allant de 10% de chacune des personnes. Maintenant, je ne reçois plus jamais d'appel. Plus maintenant. J'ai besoin de chaussures pour mes enfants. J'ai besoin de m'instruire. J'ai besoin de ceci et de cela. Vous voyez, ils ont un revenu. Nous leur avons donc appris à gagner un revenu. Par conséquent, ce que nous examinons, c'est ce que vous devez leur apprendre à semer et à récolter. Ensuite, ils apprennent à subvenir à leurs besoins. Par conséquent, ce que nous envisageons, c'est ce d'avoir la bonne orientation. Il a dit, Néhémie pensait pas à ces choses spécifiques. Néhémie pensait pas seulement à manger, ou juste aux vêtements spécifiques dont vous avez besoin, mais concentrez-vous sur l'origine de ces choses et vous en aurez toujours beaucoup. Apprenez à semer et vous récolterez aussi. 2 Corinthiens 9.7-10 que chacun donne, sème, comme il l'a résolu en son cœur, non en regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Maintenant, je n'ai jamais demandé à cette église, pas une seule fois, je n'ai demandé d'offrande missionnaire. Je n'ai me suis jamais levé. Et je pense qu'une fois, quand nous étions sur Klopike, nous avons reçu un homme noir qui est rentré et a dit qu'il était sur la route dans sa voiture et que ses pneus avaient éclaté et que d'autres choses lui étaient arrivées. Alors, j'ai conduit la voiture jusqu'à la maison, j'ai pris les 4 pneus de ma voiture, parce qu'il convenait à sa voiture et je l'ai emmené au garage et nous les lui avons donnés. C'était notre offrande d'amour. Frère Branham a dit que vous, Néhémie, ne devriez pas prélever d'offrande d'amour. Nous avons vu un étranger entrer, parce que les gens se sont alors obligés. Comme il l'a dit, demandez à l'homme de sortir et ceux qui veulent aller vers lui, qui peuvent lui donner une offrande d'amour, le fassent et ceux qui n'ont pas à le faire. Cela me rappelle ici l'histoire de l'homme dont la famille avait eu une mauvaise récolte et qui faisait face à un hiver rigoureux. Il ne leur restait qu'un sac de céréales de la mauvaise récolte et les enfants pleuraient de faim. Ils voulaient manger. Le père a dit, non, car si nous mangeons ce sac, nous mourrons sûrement. Ils ont survécu à l'hiver, mais c'était une vraie lutte. Mais quand le printemps est arrivé, le père a planté ses semences et elles ont produit une récolte abondante. Maintenant, l'apôtre Paul poursuit, version amplifiée, et Dieu qui fournit la semence pour le semeur et le pain pour manger, fournira et multipliera aussi vos ressources pour semer, et augmentera les fruits de votre justice qui se manifeste dans la bonté active, la bonté et la charité, et ainsi vous serez enrichis en toutes choses et de toutes les manières, afin que vous puissiez être généreux, et votre générosité, telle qu'elle est administrée par nous, apportera des actions de grâce à Dieu. Autrement dit, plus Dieu vous donne et vous bénit. Plus vous donnez, plus il bénit. C'est juste un cycle continu. Et donc, voyez-vous, nous devons avoir le bon centre d'attention et le bon plan si nous voulons faire sortir du jardin de notre pensée une moisson de bénédiction éternelle. Il nous est promis que Dieu, qui nous a donné la semence pour commencer, multipliera également cette semence si nous semons correctement. C'est pourquoi, vous savez, vous pouvez avoir des enfants comme vous en avez, où ils vont à l'école et vous avez appris à connaître certains des parents. Et donc, si vous étiez une sorte d'imbécile, comme le sont beaucoup dans ce message, des vrais imbéciles, et que vous alliez voir ces gens et que vous disiez, « Eh bien, vous êtes baptiste, je n'y crois pas comme vous et donc je n'aurai rien à voir avec vous », alors vous n'auriez pas l'occasion de voir cette personne être sauvée à cause de quelque chose qu'ils auraient fait pour vous. de l'amour qu'ils vous ont montré, pour d'autres l'amour qu'ils ont montré à vos enfants. Vous voyez que les gens ont aimé frère Branham ou ses enfants. Il dit que si vous pouvez faire quelque chose pour moi, priez pour mes enfants. Tant de gens qui n'y seraient peut-être pas entrés autrement, entreront, parce qu'ils auront fait de bonnes choses à l'épouse. Par conséquent, la semence a déjà en elle tout ce dont nous aurons besoin pour gagner notre vie et pour faire ressortir un caractère qui estère à son image. Nous voyons, quand frère Branham a prêché sur la stature d'un homme parfait, il a dit, « Vous ajouterez à votre foi la connaissance, ajouterez à votre connaissance, la vertu et toutes ces choses. » Et donc, les gens pensaient maintenant que je dois arriver au niveau où j'ai la foi, puis je vais travailler sur la tempérance, puis je vais travailler sur la patience, puis je vais travailler, parce que je n'ai pas ces choses. Non, il a dit, quand vous naissez de nouveau, tout estère là. Il faut juste que ça pousse. Nouvelle version internationale, maintenant. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour nourriture fournira et augmentera également votre réserve de semences et augmentera la récolte de votre justice. Vous serez enrichi de toutes les manières possibles afin que vous puissiez être généreux à chaque occasion. Et par nous votre générosité se traduira par une action de grâce à Dieu. Nous savons que la semence estère sortie de lui et qu'elle contient donc déjà en elle tout ce dont nous aurons besoin pour vivre et pour produire un caractère qui estère à son image. De Pierre 1.2-4 Grâce et paix vous soient multipliées. Comment vont-elles être multipliées? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Plus vous en savez sur votre Sauveur, plus vous voulez être comme lui. Et, 3 puisque sa divine puissance, sa parole divine, parce que la parole de Dieu est à la puissance de Dieu, nous est donnée toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, 4 par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses, vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc, il l'est déjà donné. C'est-à-dire déjà là. C'est-à-dire déjà dans sa parole. Vous n'avez qu'à l'arroser. C'est-à-dire déjà en vous. Vous aimez la parole. Vous aimez les semences. Recourez simplement à l'eau. Esaïe 60.21 Et ton peuple entier sera juste. Ils posséderont en héritage le pays pour toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Alors, Dieu nous a plantés, et il a dit ce que j'ai commencé à faire. Je ferai quoi? Je l'achèverai. Donc, nous sommes la plantation du Seigneur. Pouvez-vous voir le dessein de Dieu dans sa plantation? Esaïe 61.3b Afin qu'il soit appelé arbre de justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Par conséquent, le but d'être planté par Dieu est de produire sa gloire, qui sont ses pensées sous une forme exprimée. Dans Éphésiens 1.2-5, nous voyons que nous étions en Christ avant que le monde n'ait mis soit établi. Donc nous sommes une semence qui était en lui. Et on nous dit ici que pendant que nous étions encore en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et puis il poursuit en nous disant que pour produire ces semences qui étaient en lui, il devait avoir un plan. Au verset 5, on nous dit qu'il avait prévu à l'avance que nous soyons ses enfants d'adoption. Et c'est selon sa volonté ou son plan. Qu'il explique plus en détail au verset 10-11 où il nous dit que cela se produira selon son dessein, plan. Par conséquent, j'espère que vous voyez l'importance d'avoir un but ou un plan pour chaque semence que nous voulons produire à la récolte. Pour récolter, nous devons non seulement semer, mais aussi apprendre à semer. Parce que vous, Néhémie, pouvez pas semer de n'importe quelle façon et vous attendre à récolter une récolte ordonnée. Comme je l'ai mentionné, si vous semez des carottes sur du céleri, par-dessus ceci et cela, vous obtenez un méli-mélo de choses. Ésaïe 61.11, car, comme la terre fait jaillir son germe et comme un jardin fait sortir les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur fera germer justice et louange devant toutes les nations. Maintenant, le jardin sera aménagé dans un ordre. Comme nous le voyons dans Genèse 1.11, tout se reproduira selon sa propre espèce ou nature. Mais avant même que nous voyons Dieu exposer cette loi de la reproduction, il a d'abord rassemblé tout ce qui était de la même espèce, puis la loi de reproduction a été donnée. Remarquez dans Genèse 1.9-10. Nous voyons que tout a été rassemblé par la même nature avant que la loi de reproduction Néhémie soit introduite dans sa création, au verset 11. Par conséquent, si nous voulons être capables de produire du jardin de notre pensée de la même manière que Dieu a produit de sa propre pensée, nous devons aussi suivre son exemple. Par conséquent, nous devons avoir un but et un plan pour les choses que nous voulons semer et récolter. Nos jardins doivent avoir un ordre en eux si nous espérons récolter une récolte bonne et rentable. Sinon, vous perdrez tout votre temps à essayer de trier ce que vous avez dans votre jardin pour commencer. Tant que nos pensées sont sans but, on les autorise à dériver sans but et elles n'y produiront jamais de fruits. Les pensées qui n'ont pas de but tombent facilement dans les angoisses de la vie, et la recherche du plaisir et d'autres choses vous vole facilement la victoire de la paix et de la grâce et vous conduisent à une vie de faiblesse et d'apitoiement sur vous-même. Autrement dit, vous les enfants, vous voulez un certain article. Je n'ai sais pas quel pourrait être l'article. Peut-être une poupée. Peut-être que vous connaissez des casquettes, des armes à feu ou quoi que ce soit. Je n'en ai aucune idée. Mais vous le voulez, parce que s'estère dans votre pensée, ce que vous voulez. Maintenant, vous devez rassembler votre jardin dans votre pensée. Quelque chose qui dit, d'accord, j'ai besoin de $70 pour ce que je désire dans mon cœur. Comment vais-je l'obtenir? Eh bien, maintenant, vous décidez de trouver des moyens de gagner de l'argent, puis vous économisez cet argent, et vous avez vos $70. Un homme a dit à un enfant une fois, « Je vais te donner une pièce $1 en argent. » Et il lui a dit que maintenant tu peux le dépenser pour ce bonbon ici, ou tu peux l'économiser et tu peux acheter ce jeu de cartes que tu voulais vraiment. Il a laissé le choix au garçon. Maintenant, si le garçon n'était pas intelligent, il le dépenserait en bonbons ou en crème glacée. Quand il a entendu cela, les petites cloches ont sonné. S'estère comme moi. Quand j'étais enfant, mon grand-père nous donnait des dollars en argent chaque fois que nous lui rendions visite, et je les dépensais chez le marchand de glace. Et ce sont des dollars en argent de 1868. Qui valent beaucoup d'argent aujourd'hui, et je n'avais aucune idée de ce qu'ils valaient. Donc, vous voyez quand vous recevez de l'argent, quand vous recevez de l'or, tout ce que vous recevez de moi, des vêtements d'occasion, vérifiez-en la valeur. Comme un homme en a donné un exemple à sa fille, c'était son 18e anniversaire, et il a dit, « Je vais te donner cette voiture. » Maintenant, la voiture était rouillée. La voiture était vieille. La voiture avait peut-être 40 ans. Et il a dit, « Maintenant, je veux que tu ailles demander au concessionnaire automobile combien il t'offrirait pour cette voiture. » Alors, elle est rentrée à la maison et elle a dit, « Papa, le concessionnaire automobile Néhémie m'a offert que $100. Alors maintenant, je veux que tu ailles voir un prêteur sur gage et demande-lui combien il payera pour cette voiture. » Et il a dit, « Je te donnerai $1000. Sester tout rouillé. Ce n'ester pas bon. Je vais vous faire une faveur. Elle ester rentrée chez son père et a raconté l'histoire. Il a dit, maintenant je veux que tu ailles au club automobile et que tu demandes à n'importe qui ce que vaut cette voiture.
Alors,
elle ester allée. Puis elle ester rentrée à la maison. Elle a dit, papa, ils sont prêts à me l'acheter pour 100 000 $ parce que c'est une voiture d'époque. Bien sûr, elle est un peu vieille et exige un peu de retouche, mais on voit en elle sa capacité parce qu'elle en vaut la peine. Maintenant, le jardin de votre pensée, voyez-vous, vous devez avoir un plan et vous devez étudier ce plan et trouver différentes façons de gagner de l'argent. Maintenant, il aurait pu gagner 100 $ en la vendant tout de suite. Elle aurait pu gagner 1 000 $ en la vendant, mais elle est allée à l'endroit où ils lui ont offert 100 000 $ pour la voiture. Maintenant, voyez-vous, c'était un très beau cadeau d'anniversaire de 18 ans. Donc, des pensées qui ont un but pour facilement pallier aux angoisses de la vie. Autrement dit, l'homme de la crème glacée Esther là dehors maintenant, et je veux de la crème glacée, maintenant, et la recherche du plaisir et d'autres choses qui vous veulent facilement votre victoire, votre paix et votre grâce et vous conduisent à une vie de faiblesse et d'apitoiement sur vous-même et sans votre dollar d'argent. Par conséquent, nous devons avoir un but pour nos pensées et une fois que nous avons une pensée précise, nous devrions nous mettre à accomplir ce que nous voulons. Il y a environ 20 ans, j'avais un voisin dont la fille jouait avec ma fille. Il était en instance de divorce. Il avait 110 acres au bas de la rue. Il voulait me donner 63 acres pour seulement 110 000 $, soit 1 800 $ par acre. J'ai demandé à frère Michal, parce que c'était en quelle année déjà ? En 1997 quelque chose, où vous avez emménagé ici? Non, vous avez déjà emménagé ici. Et j'ai dit à frère Michal, en prendrais-tu la moitié? Et il y a réfléchi, et il l'a pas fait. Alors, j'ai dit, j'ai 50 000 $, alors je vais simplement payer ma propre maison. Au lieu d'investir dans les 63 acres. Maintenant, je suis allé à la banque. J'avais dit au président de la banque, parce que nous étions de bonnes amies, Jerry. Et il a dit, écoute, si tu veux investir dans une allée et tu veux investir de l'argent, ou il dit que si tu veux simplement investir dans les acres, j'investis avec toi. Et je pensais que j'aurais la moitié de l'argent. En fait, j'ai tout le financement disponible pour investir dans cette propriété de 63 acres. Et j'ai pensé, je n'aimais veut pas me mettre sous un même joug étranger avec un incroyant. Alors, j'ai dit, non merci. Et j'ai décidé de dire à mon ami que je vais passer mon tour. Donc, la semaine suivante, il est allé au comté. Il ne l'a pas vendu pour 110 000 $ comme il me le proposait. Il l'a vendu pour 289 000 $. Il s'ester fait environ 179 000 $. J'aurais pu me faire les mêmes 179 000 si je l'avais simplement acheté et vendu au comté. Vous voyez, je n'ai pas fait mes devoirs. Je n'avais pas évalué la parcelle. Je n'ai pas dit, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Vaut-elle 110 000? Vaut-elle vraiment 110 000? Ou vaut-elle vraiment 289 000? Donc, j'ai raté le but. Je peux y réfléchir de nombreuses fois. Je l'ai fait, et je me suis fait avoir par moi-même. Mais j'ai appris à être plus intelligent. J'ai appris à planifier et à définir. Par conséquent, nous devons avoir un but pour nos pensées, et une fois que nous avons une pensée précise, nous devrions entreprendre d'accomplir ce que nous voulons. Pour ce faire, Notre but devrait être celui d'unir nos pensées à nos actions, d'unir notre corps, notre âme et notre esprit en un seul être énergique avec un seul objectif. Nous devrions faire de ce but notre devoir suprême, et nous devrions nous consacrer à l'accomplissement de ce but, n'y permettant pas à nos pensées de s'égarer dans des fantaisies, des désirs et des imaginations éphémères. Autrement dit, certaines choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, vous n'en avez pas besoin dans votre jardin non plus. Concentrez-vous sur les batailles que vous pouvez gagner. Néhémie, vous concentrez pas sur les batailles que vous Néhémie pouvez pas gagner. C'est Esther, la voie royale vers la maîtrise de soi et la véritable concentration de la pensée. Et même si vous échouez encore et encore à accomplir votre but, comme vous le ferez sûrement jusqu'à ce que votre faiblesse soit surmontée, la force de caractère acquise sera la véritable mesure du succès, et cela formera un nouveau point de départ pour le pouvoir et le triomphe futur. Il vous suffit de considérer Thomas Edison. Par exemple, il a essayé près de 10 000 fois d'inventer une ampoule utilisable, et finalement, il l'a fait. Mais que se serait-il passé s'il s'était arrêté après 9999 tentatives? Edison aurait pu être découragé à la fin de la journée, mais chaque fois qu'il se relevait, le découragement s'envolait. Maintenant, cela m'a rappelé une erreur que j'ai faite il y a quelques semaines. J'ai dit quand David avait son grenier. Je voulais dire Joseph, mais j'ai dit David. C'était juste une pensée qui était dans ma tête, mais c'était en fait Joseph. Ces semences, on les a retrouvées et ils les ont plantées il y a environ 20 ans. Et ces plantes, ces semences ont en fait toutes prises. Le mot découragé vient de deux mots qui signifient perdre courage. Néhémie, soyez pas découragé. Soyez courageux. Réfléchissez, ayez un but dans votre cœur que tout ce que vous avez décidé de faire, vous l'achèverez. Après tout, Néhémie, sommes-nous pas faits à l'image de notre Père? Et n'est-il pas l'auteur et le consommateur de notre foi? N'a-t-il pas dit, ce que j'ai commencé en vous, je l'accomplirai jusqu'à la fin? Alors n'échouez pas. Terminez avec ce que vous faites. Et dans Jéhovah Jireh, lorsque vous vous mettez à chercher la facilité, vous êtes en route vers la débâcle. J'aime ce vieux poème. Dois-je être transporté à la maison au ciel sur un lit fleuri d'aisance, pendant que d'autres ont combattu pour gagner le prix, et ont navigué sur des mers de sang? Non, je dois combattre. Si je dois régner, augmente mon courage, Seigneur. Et encore, un autre poème qu'il nous dit, dit ceci, un homme de parole et non d'action Esther comme un jardin rempli de mauvaises herbes. Donc là, votre jardin Esther mal à qui planter? Je n'aime pas ça. J'aime les carottes. Alors, je vais juste. Oui, j'aime aussi les concombres. Ouais, j'aime la pastèque. Mais quand vous commencez à récolter la chose, vous récoltez des pastèques et vous remplissez vos paniers de concombres et de carottes et c'est juste un gâchis et il vous faudra une éternité pour jardiner ce qu'il y avait. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de nous apporter dans ce message du jardin de la pensée. Qu'avons-nous dans notre jardin ce soir? Des pensées avec un dessin ou des mauvaises herbes? Le puissant conquérant, il n'y a pas longtemps, je me tenais. J'étais au Westminster Abbey à Londres, en Angleterre, et j'ai vu le portrait du poète qui a écrit le psaume de la vie, Longfellow, et j'ai pensé à son poème, Néhémie, me dit pas en poésie mélancolique, que la vie n'est Esther qu'un rêve dénué de sens. Mangez, buvez, réjouissez-vous. Et, que l'âme qui sommeille Esther morte, et les choses Néhémie sont pas ce qu'elles semblent être. La vie Esther réelle. Et la vie Esther solennelle. Et la tombe n'en Esther pas le but. Tu es aille poussière et tu retourneras à la poussière. Néhémie fut pas dit de l'âme. La vie de tous les grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie sublime. Et en nous séparant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre frère naufragé et désespéré, naviguant sur l'océan sombre de la vie, pourra reprendre courage. Soyons donc à l'œuvre de tout cœur dans le combat. Néhémie, soyons pas comme un bétail muet qu'on conduit. Soyons des héros. Aidant à les réveiller Jésus. Néhémie, soyons pas comme un troupeau muet que l'on conduit, qui doit être conduit en toutes choses. Croyons. Et soyons un héros dans la bataille. Esaïe 58.11 Et le Seigneur te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans la sécheresse, et fortifiera tes osées, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux n'y manquent jamais. Les gens qui n'ont pas de but capital dans la vie deviennent des proies faciles pour les angoisses mesquines, les phobies et les soucis de cette vie, et cela conduit à l'apitoiement sur soi-même, qui sont tous des indications de faiblesse. Ces faiblesses conduisent, tout aussi sûrement que les péchés délibérément planifiés, à l'échec, au malheur et à la perte. Autrement dit, les gens peuvent se plaindre de Néhémie pas avoir d'amis, mais Néhémie se montre pas amicaux. Les gens peuvent se plaindre d'être malades ou d'avoir telle ou telle maladie. Quand j'étais un jeune garçon, nous les appelions des maladifs. C'est-à-dire une personne qui souffre d'une maladie chronique. Ou vous pouvez dire, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Je vais faire des choses. Je viendrai à votre fête. Je viendrai chez vous. Je viendrai à votre église. Je viendrai partout où on aura besoin de moi. Je veux qu'on ait besoin de moi. Je n'ai émis veut pas être un excédent de bagages pour vous. Je veux vous aider. Car la faiblesse Néhémie perdurera pas dans un monde où le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tout comme dans la nature, la meute de loups cherche généralement l'agneau le plus faible, ou celui qui s'éloigne du troupeau. De même le diable cherche à dévorer le plus faible du troupeau. Par conséquent, vous devriez avoir un but dans votre cœur, et vous devriez chercher à atteindre ce but. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je n'aurai pas d'autre alternative. Je suis l'épouse. Vous devriez faire de votre but le centre d'intérêt capital de votre être. Et votre but devrait refléter la saison dans laquelle vous vivez. Même Dieu a un but pour guider et diriger la somme de sa propre pensée. Car sans but, nos pensées Néhémie feraient qu'aller à la dérive. Lorsque vous avez un but guidant vos pensées, vous avez la tour de contrôle de votre pensée. Et là, lorsque tu joues dans l'équipe de volley-ball de l'école, tu veux être la meilleure serveuse qui existe. Donc, tu dois y travailler. Chaque fois que tu le fais, cela prend également le contrôle de tes actions et de ton discours. Esaïe 14.24 Le Seigneur des armées a juré, disant, certainement, comme je l'ai pensé, ainsi l'arrivera, et, comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Ensuite, nous devons enlever de notre jardin toutes les semences qui n'y font pas partie de la récolte qu'on désire. Si nous avons des mauvaises herbes qui poussent, nous devons les couper avant qu'elles n'envahissent notre jardin. Cela doit être fait régulièrement, car n'aimez pas le faire, leur permettra de pousser et d'utiliser les nutriments réservés aux plantes de votre récolte, et donc d'étouffer la vie des plantes de votre récolte, les empêchant de mûrir. Matthieu 13.22-23 Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est-à-dire celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Et il devient infructueux. 23 Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, une terre labourée, Esther celui qui entend la parole et la comprend, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Inclinant la tête en prière. Père miséricordieux, nous avons montré ici les choses que nous devons faire dans notre vie pour nous assurer que toute notre pensée est en ligne avec ta parole. Et là où ce n'est pas le cas, nous l'extirpons simplement. Et là où c'est le cas, Seigneur, que nous l'arrosions, de sorte qu'elle en produise un 60, un autre 30, même un autre 90. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.